Sokɛ ka ɲi siri bɔlɔ la kayala
musow ka fo
ka wale ɲumandon
musow ka fo
ka bonyaɲa sɔrɔ musow ka bɛ yaki
walekɛ
musow ka
fa ni
fa bonyaɲa sɔrɔ.
Bonjour à toutes et à tous. Après Nicole Leblond et son saisissant parallèle entre les expériences mystiques de Thérèse d'Avila et les expériences de mort imminente, je vous propose de poursuivre ce cycle d'émissions consacré aux EMI, c'est-à-dire les expériences de mort imminente, avec le témoignage d'une expérienceuse. Elle s'appelle Nicole Dron et elle a très aimablement accepté de s'entretenir avec nous de cette expérience qui a bouleversé sa vie de fond en comble. Nicole, bonjour.
Bonjour Christophe, bonjour à tous et à toutes.
Alors nous allons, si vous le voulez bien, entrer dans le vif du sujet. Quand et comment, dans quelles circonstances avez-vous vécu votre EMI ?
Ben, j'ai vécu mon EMI, oh là là, ça remonte déjà loin, c'était en 1968. Et ça s'est donc fait 3 semaines après la naissance de mon second enfant. Et donc j'ai fait une très grosse hémorragie, j'étais hospitalisée d'urgence et en cours d'intervention, une seconde hémorragie s'est déclarée. Je me suis trouvée entre 2 et 3 de tension et on a dû me faire ce qu'on appelle une hystérectomie d'urgence. Et voilà, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus. Et j'ai vécu cette expérience au cours de cette opération.
Et la première chose qui vous a étonnée, c'est ce que vous dites, eh bien c'était le fait de pouvoir vivre au-delà de votre corps.
Oui, oui, déjà le fait de... Moi, je ne connaissais absolument pas le fait qu'il pouvait exister de telles expériences à ce moment-là. Mais déjà le fait de me trouver au plafond, de prendre conscience que je vivais au-delà de mon corps, voilà, que j'étais quelque part l'habitant de mon corps, ben, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Je prenais conscience finalement que l'être humain, c'est comme symboliquement comme une voiture. L'important n'est pas la voiture, mais le chauffeur à l'intérieur. Et moi, je me trouvais être mon chauffeur. Je voyais, j'étais au plafond, je voyais de tous les côtés à la fois. Je voyais le personnel médical qui s'affairait autour de moi. J'entendais le chirurgien qui disait « vite ». Encore un flacon de sang, et puis ça n'arrêtait pas, quoi. Et moi, j'étais tout à fait sereine, et à un certain moment, j'ai entendu le chirurgien qui a dit « Elle me pète entre les mains », ce qui m'a été confirmé un mois après, lors de ma première sortie. Je suis rentrée chez moi, un mois après, je suis sortie, j'ai fait des emplettes, et dans un magasin, j'ai entendu une dame qui m'a dit « Bonjour, la petite ressuscitée ». On m'appelait comme ça à l'hôpital. J'en ai profité pour lui demander ce qui s'était passé, quoi. Et elle m'a dit, mais je n'ai pas le droit de vous le dire, mais après tout, vous êtes bien là maintenant. Vous avez été cliniquement morte. Elle m'a dit que j'avais fait très très peur donc au chirurgien qui aurait dit, je ne sais plus bien ses paroles, mais soit elle me pète entre les mains, soit elle me claque dans les mains, ce qui revient pratiquement au même. Et que je lui ai demandé, mais... qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc c'est là, j'ai su que je... Bon, le chirurgien l'avait dit à mon mari, mais là j'ai reçu par sa bouche que j'avais refait une autre hémorragie et que j'étais descendue entre 2 et 3 de tension, que mon cœur s'était arrêté pendant 45 secondes avec, paraît-il, l'électrocardiogramme plat. Et voilà, quoi, j'étais revenue de l'autre côté. Voilà.
45 secondes, d'où le titre de votre livre, 45 secondes d'éternité, parce que pendant 45 secondes, vous avez vécu une expérience qui a bouleversé complètement votre vie. Vous avez tout d'abord, puisque comme toutes les EMI, il y a différentes étapes, et vous avez d'abord été plongé, dites-vous, dans des abîmes de ténèbres. Comment ça s'est fait? On vous quitte,
oui,
là, vous étiez
oui.
Au plafond, et là, qu'est-ce qui se passe?
Bon, d'abord, avant de me trouver dans un abîme de ténèbres, de silence, j'ai pensé tout simplement à mon mari et à mon beau-père qui étaient dans la pièce à côté, enfin, qui étaient dans la chambre dans laquelle je suis sortie pour aller sur la table d'opération. Mon mari m'avait dit, t'en fais pas, va, tout va bien se passer, on t'attend dans la salle d'attente. Je pense à eux. Et instantanément, je me trouve dans la salle d'attente de l'hôpital. Alors, ce qui est étrange, c'est que je n'avais jamais eu l'occasion d'y aller. Je ne savais même pas où elle se trouvait, ni le chemin qu'il fallait pour emprunter. Et là, je me trouve là et je prends conscience de traverser les murs. Et là, je vois mon mari et mon beau-père. Et ce qui est troublant, c'est que j'étais à l'intérieur. C'est comme si j'étais à l'intérieur de mon mari et je savais tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il était.
Et vous ressentiez tout ce qu'il ressentait.
Et je me suis trouvée ensuite, mais je ne peux pas vous dire les étapes, dans un abîme de ténèbres, de silence. Et là, je me suis dit, ça y est, ma fille, tu es morte. Et en même temps, je me disais, mais non, je ne suis pas morte. Parce qu'à la limite, j'étais beaucoup plus lucide. Je dirais même 1000 fois plus intelligente que je ne le suis actuellement. Et donc, comment dire ça, je me suis remémorée de tout ce qu'on disait quand j'allais au catéchisme, que j'étais jeune, qu'on vivait jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la résurrection finale. Et puis, je me disais, mais on ne peut pas vivre comme ça pendant une éternité dans ces conditions-là, parce que pour moi, ces ténèbres, même si ça n'a duré qu'une fraction de seconde, c'était quelque chose d'affreux. Et au loin, j'ai vu une petite lumière. Et cette petite lumière, c'est un peu comme quand une étoile, qu'il y a un ciel tout noir, quoi, et qu'on voit une petite étoile. On n'est plus seul au monde. Et là, à partir de ce moment-là, j'étais propulsée à toute vitesse vers cette lumière. Cette lumière, j'avais l'impression d'être dans un tunnel. Je me pose la question, est-ce que c'était vraiment un tunnel ou est-ce que la vitesse donne cette impression-là? Je n'en sais rien. Je sentais des présences diaphanes autour de moi, sans pouvoir vraiment les voir, mais je les ressentais. Voilà. Et je suis rentrée dans la lumière et c'est le plus beau moment de ma vie.
Oui.
Le plus beau moment de ma vie. Je crois que toutes les personnes qui ont perdu un être cher, elles devraient essayer de s'imaginer ce que ça peut être le bonheur de rentrer chez soi, dans sa patrie. Et là, cette lumière-là a pris tout l'horizon. Et j'étais chez moi. Je retrouvais ma patrie. Je retrouvais une paix infinie. J'étais dans un amour dont on n'a aucune idée sur la terre. Quelquefois, symboliquement, je dis, bon, si je dis à quelqu'un, je t'aime, allez, bon, je te donne mon cœur, mais je tends l'autre main pour en avoir autant. C'est le propre de l'amour humain. Mais là, c'était un amour soleil. C'est un amour qui ne me demande rien, qui, le propre de l'eau, c'est d'être mouillé. Ben, le propre de l'amour, c'est d'aimer, c'est tout. Et c'était comme si j'étais comblée, restaurée. C'était même pas que je suis rentrée dans l'amour. J'étais devenue l'amour.
Oui.
J'étais devenue l'amour. Et là, j'ai compris. Et on ne sait pas pourquoi. Je pense que la lumière, c'est de l'amour, c'est de la paix, c'est de la connaissance, donc de l'information. Et donc, on sait, j'ai su que j'étais éternelle, que j'avais toujours vécu et que je vivrais toujours. J'ai compris à ma façon, parce que je ne prétends pas avoir tout compris, loin de là. Mais je pense que j'ai compris le sens du mot « je suis ».
Oui.
Tout en étant moi, je n'ai jamais perdu la notion d'être moi, non. Mais c'était comme si mon moi s'était fondu, s'était agrandi, et j'étais tout l'univers en même temps. J'étais en osmose totale. Et il y avait, je suis, c'est tout.
Voilà. Voilà qui ressemble à une expérience mystique, finalement. Souvent, les mystiques le disent, un moi élargi aux dimensions de l'univers, tout en restant soi, en ne perdant pas conscience de soi.
Exactement, mais je suis persuadée qu'on appelle ça EMI ou NDE, mais je suis persuadée qu'à des niveaux divers, peut-être, mais c'est avant tout une expérience spirituelle.
Oui. Alors, vous avez également vu le frère de votre... un petit frère mort.
Oui. J'avais 11 ans quand mes parents ont perdu un petit bébé de 7 mois. Et il était décédé, pour les personnes qui ont déjà un certain âge, d'une maladie qu'on appelle la toxicose. C'était un virus qui attaquait les intestins. Le docteur avait dit ça à mes parents, qui attaquait les intestins très fragiles des bébés. Et ils étaient déshydratés et à l'époque, ils mouraient en quelques heures. On a découvert le médicament qui aurait pu le sauver, mais un an après, c'était trop tard pour lui. Moi, j'avais 10 ans quand il est venu au monde. J'étais sa petite maman, quelque part. Hein. Et donc, quand il est parti, c'était un chagrin immense, un chagrin immense. Et là, de l'autre côté, je me trouve en présence d'un jeune homme irradiant de lumière. Et c'est fou parce que j'ai su de façon formelle que c'était mon petit frère. Quand je me suis trouvée dans la salle d'attente de l'hôpital et qu'il y avait mon beau-père et mon mari qui ne me voyaient pas, mais que je voyais bien, à un certain moment, j'avais mis ma main sur l'épaule de mon beau-père pour le rassurer, pour lui dire ben, « je suis là, quoi ». Et ma main avait traversé son corps. Mais dans cette lumière-là, en présence de mon frère, parce que bien sûr qu'on peut me dire, mais comment vous pouvez être sûr que c'est votre frère? Il y a une grande différence entre les traits d'un petit bébé et puis les traits d'un adolescent. Et quelquefois même, il n'y a même plus de ressemblance. Mais je ne peux rien dire. Moi, même si j'avais le monde entier contre moi, ça n'a pas d'importance. Je sais de façon absolue que c'est mon frère. Je pense que c'est une reconnaissance d'âme à âme. On ne peut pas l'expliquer autrement. Et je me suis trouvée dans ses bras. Il était solide et moi aussi. Et je me rappelle lui avoir dit, mais tu te rends compte, si papa et maman étaient là, mais quel bonheur ce serait pour eux, mais tu te rends compte. Et il m'a dit, mais ce n'est pas avec des mots, c'est plus qu'avec des mots, c'est, comment dire ça, j'étais lui, il était moi, c'est une osmose totale des pensées, des sentiments. Et donc il m'a dit qu'il nous avait toujours guidés, toujours aimés, toujours suivis. Et j'étais très émue parce que j'ai compris que son amour, c'était un amour, mais alors qui s'était amplifié aux dimensions de l'univers, parce qu'il nous aimait, mais d'un amour total, sans égoïsme, pour nous, tout simplement.
Alors ensuite, vous arrivez dans une sorte de jardin où les sons deviennent couleurs, et où, dites-vous, vous devenez tout une fois encore.
Ah oui, bien sûr. J'étais dans un très beau jardin. Bon, on peut peut-être comparer avec un jardin, parce qu'on trouve des très beaux jardins sur la terre. Mais là, c'était magnifié parce que si je regardais un brin d'herbe, je voyais bien sûr l'herbe, la texture, mais je voyais aussi la lumière qui était à l'intérieur, les molécules de lumière, disons la vie. Je me suis assise près d'un ruisseau, c'était la lumière d'eau. Je voyais des fleurs avec des couleurs plus pastelles encore. Mais c'est impossible à décrire d'ailleurs. Les sons devenaient couleurs. Et tout ne faisait qu'un quelque part. Et j'étais ravie, quoi. J'étais ravie, mais à la limite, ça peut même étonner beaucoup de personnes, mais je ne me sentais pas plus importante qu'une goutte d'eau, qu'une fleur, qu'une plante, qu'une note de musique. Je ne me sentais pas plus importante que ça, mais en même temps, j'étais tout ça parce que j'étais la vie qui circulait en tout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on se trompe quand on a un chagrin fou, quand on perd quelqu'un qu'on a aimé? Et c'est toujours mon cas, parce que même après cette expérience, je suis évidemment encore bien humaine. Et tant mieux quelque part. Et j'ai beaucoup de chagrin quand je perds un être cher. Mais disons qu'en pensant à l'expérience que j'ai vécue, eh bien, je me dis, je n'ai plus la désespérance, disons, de ceux et celles qui se disent, eh bien, on ne se verra plus jamais. C'est terminé, c'est fini, on ne se verra plus. Et moi, je me dis, oui, c'est vrai, pendant des années peut-être, eh bien, on ne sera plus en présence physique l'un de l'autre, mais au bout du chemin, on va se revoir. Et ça change tout.
Là où vous avez fait une autre rencontre, vous avez vu un être très beau surgir comme venu du fond de l'univers, dites-vous. Un oui. Être très beau. Et vous vous êtes dit... Eh bien, que c'était vous, que c'était vous, mais totalement accompli plus tard, finalement, c'est ça?
Oui, oui, c'est vrai, mais avant, oui, c'est vrai, mais je dis avant ça et après, c'est pas vrai, parce que tout se fait en même temps. Mais bon, je vais répondre à votre question. C'est vrai que j'ai vu un être. Quand je l'ai vu, je lui ai tendu les bras, je lui ai dit, je veux me marier avec toi. Et je comprenais en même temps que cet être-là, c'était moi. Mais moi, à la fin des temps. Comme si, en même temps, c'était une sacrée leçon d'humilité, parce que je voyais tout le chemin qu'il me restait à parcourir pour être celle que je suis déjà, quelque part. Cet être-là, on ne peut même pas dire si c'était un homme ou une femme, parce qu'il dégageait à la fois une puissance masculine et une tendresse féminine. Et je savais que c'était moi. Et je savais que, quelque part, je suis déjà réalisée. Quelque part. Et c'est mon incapacité d'ailleurs. Je comprenais que c'est mon incapacité ici sur cette terre à vibrer, à vivre, comment, à la pointe, moi je dis à la pointe de mon âme. Quand je dis ça, à ce qui est le plus beau en moi, à ce qui est de plus pur. C'est mon incapacité à réaliser ça ici sur la Terre qui attire les circonstances bien de que je vais vivre pour m'approcher de plus en plus de cet être que je suis. Je ne demandais qu'une chose, moi, c'est de me fondre en lui.
Oui.
De me fondre en lui. Et j'ai compris que ce qu'on appelle quelquefois des épreuves, des expériences douloureuses, nous, on les classe dans des épreuves, mais de l'autre côté, tout n'est qu'expérience. Parce que j'acceptais à la limite d'être dans un fauteuil roulant, par exemple, toute une vie. Hein, parce que je comprenais que cette expérience-là pouvait, sur des plans subtils, bien sûr, sur la Terre, on a du mal à comprendre ça, pouvait m'apporter, eh bien, peut-être la tolérance, la patience, des qualités que je n'avais pas entièrement et qui me manquaient pour, eh bien, pour plus tard, eh bien, me retrouver, être cet être-là, quoi. C'est quelquefois, comme on dit, j'ai connu une dame qui a fait la même expérience que moi et qui habite en Suisse. Elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit, tu sais, Nicole, les épreuves, ce sont des blessures qui guérissent.
Oui. Alors, il y a un autre épisode qu'on retrouve fréquemment dans les EMI et que vous avez connu, c'est celui de la revue de vie. C'est-à-dire que vous avez revu tout ce que vous aviez fait de bien et de mal sur Terre depuis le jour de votre naissance, mais
exactement,
sans jugement. Et ça, c'est très important à dire aussi.
C'est l'aspect le plus important de mon expérience. Je me suis trouvée devant un être, mais c'est étrange. J'avais l'impression que tout l'univers, pour se mettre à ma portée, s'est condensé sous la forme d'un être, je dirais tout autant que notre cœur connaît. Il ne m'a pas dit qui il était, mais notre cœur connaît. Il m'a simplement posé deux questions qui sont tellement simples, mais qui sont les plus importantes de toute ma vie. Comment as-tu aimé ? Qu'as-tu fait pour les autres ? Et pendant qu'il me disait ça, eh bien, j'ai vu, c'est une vision symbolique, mais jusqu'à quel point, j'en sais rien, je voyais toute l'humanité avec les bras levés vers le ciel et qui implorait. Et je comprenais que toute l'humanité, un jour ou l'autre, quelque part, on était en croix, parce que, bien sûr, heureusement, on a tous des bonheurs dans la vie, mais on traverse aussi des épreuves. Et qu'est-ce que j'avais fait pour les autres ? Alors, j'avais 26, 27 ans à l'époque. Je ne suis ni meilleure ni pire qu'une autre. Bon, j'étais tout le temps contente de rendre service, etc. Mais là, c'était une question exigeante. Et je n'arrête pas d'approfondir ça. Plus tard, en lisant un livre, je crois que c'était d'Emerson, et je me suis dit, oui, c'est ça qu'on me demandait. Comment as-tu fait grandir la vie ?
Ah oui. Faire grandir la vie, c'est un mot qui m'a beaucoup plu dans votre témoignage. Faire grandir la vie, qu'est-ce que vous entendez par là, finalement ?
Ben, comment t'es-tu délivré de tout ce qui en toi, eh bien, bloque la vie, de toutes les passions, de tous les désirs, de tous les égoïsmes, de tout l'orgueil, on croit finalement dans la vie qu'on est libre, parce que, je me rappelle, j'étais jeune, je voulais être libre, quand mes enfants m'ont dit à 16, 17 ans, mais maman, nous on veut vivre, on veut être libre, je les comprenais parfaitement, parce que on a tous passé par là, mais quelquefois on ne sait pas que la liberté qu'on demande, eh bien, quelque part, elle nous mène en prison. Tandis que là, c'était être libre de tout ce qui, en nous, obscurcit la vie. Quand on est sous l'emprise des passions, quand on est sous l'emprise de l'égoïsme, du besoin d'avoir, du besoin d'être le plus fort, le plus beau, le plus intelligent, de réussir dans la vie, etc., et qu'on croit qu'avec tout ça, on sera libre, eh bien non. Moi, j'étais libre de tout ça.
Oui. Alors...
Et voilà, et j'ai compris grâce à cette expérience que l'important est de se connaître soi-même, non pas de savoir qu'on fait 1m70 ou 1m67, qu'on a les yeux bleus, à la limite même qu'on a tel défaut ou telle qualité qui peut nous aider sur le chemin d'ailleurs, hein. Mais se connaître soi-même, c'est pour moi maintenant, c'est faire l'expérience de cette partie, de cette source qu'on a en soi, que certains appellent Dieu, que d'autres appellent sous un autre nom, ça n'a aucune importance. Disons la source pour que ça puisse être compréhensible par tout le monde. De cette source qu'on a en nous, de cette oasis de liberté, de paix, d'amour incroyable. Et donc voilà, pour moi, c'est ça. C'est faire cette expérience-là, qu'on n'est pas obligé de mourir pour autant. Et essayer essayer, dans la mesure du possible, eh bien, de, pour moi, c'était de la transmettre, afin peut-être de consoler des personnes en peine et surtout d'éveiller les êtres à leur véritable dimension, parce qu'il n'y a que ça qui peut apporter le bonheur, à mon idée.
Oui, vous avez l'impression qu'on en est loin aujourd'hui ?
Oui et non. Ça fait 30 ans que je parle de cette expérience. Au départ, eh bien, il y avait toujours un petit sourire condescendant, même ironique, hein, en disant, bon, on peut penser à ben, cette dame, ou voilà, ce monsieur, etc. C'est quelqu'un d'illuminé dans le mauvais sens du terme. Mais beaucoup d'ouvertures. Il y a une grande ouverture quand même déjà depuis environ une dizaine d'années. Grâce surtout, par exemple, à des associations comme IONS, comme S17 Productions de Sonia Barcala, etc., qui ont fait connaître ces expériences avec une rigueur scientifique qui est, moi je trouve, qui est obligatoire quelque part pour ne pas s'enliser dans toutes sortes de choses. Et donc, oui, maintenant, il y a quand même une ouverture. Bon, pour moi, ça n'ira jamais trop. J'en demande toujours de plus parce que pour moi, l'importance n'est pas simplement de savoir si l'expérience est vraie. Personnellement, j'en ai pas besoin de ça. Je comprends très bien que ça puisse être utile à beaucoup de gens. Mais pour moi, l'important, c'est d'aborder le domaine de la conscience, de l'âme, quoi. On ne peut pas expliquer une telle expérience si on la mutile de sa dimension spirituelle. C'est impossible.
Oui.
Sinon, on la réduit. On la réduit à des phénomènes psychologiques ou alors physiques. Et non, c'est pas possible. Il faut écouter, il faut aborder la dimension spirituelle de l'être humain pour pouvoir la comprendre.
Oui. Vous avez reçu là-haut, si j'ose dire, un enseignement également, un enseignement spirituel, un enseignement sur l'histoire de l'humanité et également sur le Christ. Est-ce que vous voulez bien qu'on parle de ce qui vous a été dit sur le Christ et qui m'a aussi personnellement beaucoup intéressé?
Oui, on disait d'abord que Dieu était la force, la vie et le mouvement. On disait que tout ce qui allait dans le sens de l'unité, que c'était bien. Quand je mourrais, qu'on ne me demanderait pas de quelle religion, de quelle philosophie, de quelle race je fais partie, comment j'ai aimé. Et qu'est-ce que j'ai fait pour les autres? Parce que seule la qualité d'être d'un individu est importante. On m'a montré que la vie était partout dans l'univers. On m'a parlé, bien sûr, du retour du Christ. Alors, je dis tout le temps que cette expérience, tout en étant le cœur de toute religion ou philosophie, elle est au-delà aussi. Elle est au-delà parce que, elle est au-delà, non pas de la religion, qui pour moi, il n'y a qu'une seule religion, c'est l'amour, tout simplement. Mais elle est au-delà des institutions. Et alors donc, malgré tout, on me disait que le Christ allait revenir sur la Terre, et on a le droit de me dire, mais enfin, vous dites ça, et puis vous parlez du Christ, quoi, ça va plus, mais non, parce que d'après ce que j'ai compris, et attention, hein, je suis très petite, c'est certainement infiniment encore plus grand que ce que j'ai compris, on me disait que le Christ était la plénitude de Dieu dans chaque individu, tout simplement.
Oui.
Qu'aucune religion ne puisse en avoir le monopole. C'est Dieu dans chaque individu. Et j'ai pleuré. Alors je ne sais pas si c'est un être humain, une entité telle le Christ qui reviendra physiquement. On me disait que c'était imminent, mais imminent, ça peut être un an, 100 ans, peut-être même 1000 ans, je n'en sais rien. Et je ne sais pas si c'est sa conscience qui viendra éveiller. Parce que j'ai compris que nous étions tous des petites étincelles du Christ. Nous sommes tous des petits boutons du Christ, des petits boutons de rose du Christ. Et qu'il fallait épanouir cette dimension Christ en nous. Et j'ai pleuré parce que j'ai compris que si individuellement et collectivement on faisait ça, eh bien fini les choses difficiles qu'on m'avait montré qu'il pourrait y arriver sur la Terre si on ne changeait pas. Le si est important.
Oui, parce qu'on vous a dit que nous étions, et là, c'était donc en 1968, mais on peut supposer que le temps a une autre, et c'est autre chose là-haut, évidemment, mais on vous a dit que nous étions, nous, l'humanité, à la croisée des chemins.
Exactement.
Oui.
Alors encore plus maintenant.
Et encore plus maintenant,
parce que les choses ont évolué depuis 68. On m'a montré qu'en 68, il y avait beaucoup de technologie, mais pas beaucoup de fraternité qui accompagnait cette technologie. Et on me montrait ce qui risquait d'arriver sur la Terre si on ne changeait pas. J'insiste sur le « si », parce que c'est déterminant, c'est notre part de liberté.
Je suis sûr que vous êtes tous, comme moi, désireux d'entendre la suite de cette histoire, de cette expérience dont Nicole Dron nous fait le récit aujourd'hui. La première partie de cette émission se termine, mais dès la semaine prochaine, nous retrouverons Nicole Dron, l'une des premières personnes en France à avoir témoigné au sujet de son EMI, son expérience de mort imminente. À la semaine prochaine.